Alors, ça n'a pas été facile non plus pour la communauté chinoise pendant cette année. Notre prochaine invitée, Dr Winston Chan, un entrepreneur et possède une clinique chiropratique à Montréal depuis 2004. Il siège au conseil d'administration de la Fondation chiropratique du Québec, permettant le financement de la première chaire de la recherche en chiropratique à l'UQTR. Bonjour, Monsieur Chan.
Bonjour.
Alors, je disais que ça a été extrêmement difficile pour la communauté chinoise cette année. Racontez-moi comment ça s'est passé dans les faits. Nous, on a eu des gens qui nous ont rapporté des incidents dans le métro et tout ça. Alors, racontez-moi ce que vous avez, vous, entendu de la communauté.
Je dirais que depuis janvier 2020, lorsque la pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu beaucoup de cas qui étaient rapportés sur les médias sociaux, par des témoignages sur les réseaux sociaux, sur des différents actes, soit verbal ou physique, des agressions comme le crachat ou se faire crier des noms, donc envers des membres des communautés asiatiques. Et à Montréal, c'est dans l'espace public. Et aussi, qu'est-ce qui passe aussi sur l'Internet, sur les réseaux sociaux aussi. Il y a eu beaucoup de discours haineux aussi. Donc, il y a eu beaucoup de cas. La police de Montréal aussi a répertorié 5 fois plus de cas que l'année précédente. Donc, les membres des communautés asiatiques ont eu une grosse... ont été le bouc émissaire et ils ont éprouvé beaucoup de racisme. Et c'est un phénomène qui existe depuis... le racisme existe même avant la pandémie. C'était plus des microagressions, c'est beaucoup plus subtil. C'est de la mesquinerie ou de la moquinerie, de la moquerie ou de la méfiance. Mais avec la pandémie, c'est beaucoup moins subtil, c'est beaucoup plus direct.
Mais qu'est-ce que justement, on va y aller dans le direct, qu'est-ce que les gens disent quand, depuis, vous me dites, bon, moi j'ai entendu des incidents dans le métro, dans la rue, dans le quartier chinois. Qu'est-ce que les gens, c'est quoi les insultes que les gens ont subies?
Souvent, c'est par rapport à la COVID, mais aussi que la situation qui se passe aussi en Chine, au niveau géopolitique aussi. Je pense aussi qu'il y a aussi les stéréotypes. On pense que c'est arrivé aussi à le fusillade à Atlanta. Comment les femmes asiatiques sont perçues comme des objets hyper sexualisés. Donc ça, c'est tout des stéréotypes. Puis quand il y a des événements comme la pandémie, ça permet d'exacerber justement ces actes racistes. Mm-hmm. Et je pense que et au quartier chinois, ben, c'est plus des vandalismes qui existent, des entrées par infraction, des vols à l'étalage, des vols par infraction. Donc, ce sont des cibles faciles parce que les commerçants ne portent pas plainte. Même les victimes des actes haineux ne portent pas plainte. Mmh. Alors, souvent, ce sont des cibles faciles. Souvent, c'est des personnes âgées et les femmes.
Oui. Je suis justement, je savais que j'allais faire l'entrevue avec vous. Je suis passée dans le quartier chinois et le quartier ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Effectivement, j'ai vu beaucoup de restaurants fermés et il était vraiment très tranquille. Donc, comment vous expliquez ça?
Ben, premièrement, il y a eu l'absence de touristes. Il y a une digitalisation qui existe déjà même avant la pandémie au quartier chinois. Une des gestes de solidarité qu'on peut manifester auprès de la communauté chinoise, c'est vraiment encourager les commerçants du quartier chinois. Je dirais que partout en Amérique du Nord, les quartiers chinois ont eu beaucoup de misère, comme à Montréal. Mm. Et aussi, ben, le quartier chinois aussi ratisse. Et il y a aussi toute la question aussi de la protection du patrimoine au niveau des bâtiments dans le quartier chinois. Par exemple, sur la rue La Cochetière, au coin de la rue Côté, proche du Palais des Congrès et du complexe Guy Favreau, mais il y avait la première école canadienne là, qui était fondée par Louis-Joseph Papineau et Peter McGill, qui était c'était aussi une place pour les patriotes, justement, qui étaient là pour justement enseigner aux enfants à l'époque, qui était vraiment un modèle à suivre. Mais ce bâtiment-là, ben, ça a été acheté par des développeurs immobilier, donc qui risque de disparaître. Mmh. Donc, il y a toutes ces questions de patrimoine qui existent, là, qui est aussi un enjeu important.
Est-ce que le fait qu'il y ait autant de racisme, vous me disiez que ça a commencé un petit peu avant la COVID, mais c'est évidemment, ça a empiré durant la pandémie, mais est-ce que ça donne lieu à des conversations avec les gens de la diaspora qui disent, bon, on va retourner chez nous tellement le climat et nocif, est-ce que les gens en parlent, est-ce que les gens, parce qu'il y a la peur, hein, je veux dire, vous avez parlé des femmes qui sont attaquées, la peur de vivre la violence, de se faire saboter son magasin, est-ce que les gens en parlent, de dire, bon, on va quitter Montréal?
Certains ont quitté le Canada, le Québec. J'en ai vu dans mes réseaux, là. Oui. On voit aussi qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale à cause de la pandémie, mais aussi à cause du racisme. Si on peut faire un parallèle à New York, il y a eu une étude, les personnes asiatiques ont plus peur du racisme et des actes haineux sur la rue que la pandémie. Est-ce que c'est comme ça à Montréal? Peut-être on peut faire un parallèle. Mais je dirais que oui, c'est un sujet de conversation qui est vraiment plus omniprésent. Puis aussi, les enfants d'origine asiatique, c'est aussi, il y a eu beaucoup d'intimidation qui a eu lieu. Mais je pense qu'il y a eu lieu de former les enseignants, justement, à pouvoir aborder ces questions de racisme aussi. Je pense que ça commence par la sensibilisation puis l'éducation à un très bas âge.
Quand vous dites la sensibilisation, éducation à très bas âge, j'ai l'impression qu'avant, la communauté souffrait chinoise, on n'entendait pas parler. Et là, quand il y a eu la pandémie, quand on a su ce qui se passait, on entend plus parler de cette souffrance-là, parce que je ne pense pas que ce soit un peuple qui ait envie de démontrer ses émotions. Vous l'avez dit, même les gens qui se font saccager leur vitrine ne vont pas porter plainte. Est-ce que je me trompe ou c'est un petit peu dans la façon d'être de ce peuple-là, de garder les souffrances pour eux?
Oui, c'est propre à la culture de rester positif malgré tout, de ne pas parler des choses négatives. C'est vraiment propre à la culture dans les familles. Puis aussi, c'est une façon aussi de se protéger aussi. Mais je pense que quand il y a eu une marche pour dénoncer le racisme envers les Asiatiques en mars, je pense qu'il y a eu un éveil. Puis les médias aussi ont commencé à en parler. Puis aussi, les politiciens ont dénoncé aussi ce phénomène-là. Donc, oui, il y a comme un éveil. J'ai aussi la fusillade à Atlanta aussi, quand de nombreuses femmes d'origine asiatique sont tuées. Je pense que ça a créé une prise de conscience.
Ouais. D'en parler. Est-ce que vous avez de l'aide au niveau de... Vous êtes très impliqué au niveau du conseil d'administration pour votre clinique et un homme d'affaires et tout ça. Est-ce que la ville, parce que ça prend aussi qu'on rénove un petit peu le quartier puis qu'on conserve les acquis, est-ce que vous allez avoir de l'aide de la ville de Montréal pour reniper puis au moins des assurances que ce que vous avez fondé reste au quartier chinois?
Mais il y a eu une action, un plan d'action qui a été dévoilé pour la question de pour protéger les bâtiments puis la question immobilière. Il y a un comité qui a été mis sur pied par le gouvernement provincial, par la ministre de la Culture et conjointement avec la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie pour adresser cette question-là de la protection du patrimoine, puis toute la question aussi de aussi parce que ça va main dans la main aussi avec la pérennité des commerces, des petits commerces, sur des commerces qui sont passés de génération à génération, qui ont un savoir culinaire qui a été passé d'une génération à une autre génération. Donc c'était vraiment c'est vraiment préserver aussi l'âme du quartier aussi, parce que on peut avoir des bâtiments rénovés, on peut regarder la façade asiatique et chinoise, mais si il y a un Starbucks ou un Tim Hortons à l'intérieur de ces commerces-là, à l'intérieur de ces bâtiments-là, on n'est pas plus avancé. Donc il y a aussi une question de développement économique et soutenir les petits commerçants aussi. Donc ça c'est vraiment, il y a un comité qui est en place. Moi je dirais que la communauté chinoise est amenée des consultations puis des promesses, des paroles. Ils veulent avoir de l'action. Et à date, il n'y en a pas vu tant que ça.
Il n'y a pas beaucoup de mains tendues pour, et avec des billets pour dire on va rénover, on va vous aider. C'est ça, je comprends.
Il n'y a pas eu de mesures précises avec un échéancier précis. Pour justement répondre à ces besoins-là, malheureusement.
Au niveau de, vous m'avez dit, ça fait partie de notre culture, un peu de souffrir et de pas dire, d'être positif. Est-ce que il y a de l'aide, parce que ces gens-là qui subissent ça tous les jours, est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que il y a suffisamment de gens pour au niveau de la santé mentale pour traverser ce que vous traversez, la communauté?
Présentement, il y a des groupes d'entraide sur Facebook. Il y a aussi le service de la famille chinoise qui est un centre communautaire dans le quartier chinois qui vient en aide avec aux différents membres des communautés asiatiques. Par contre, le problème, c'est que il n'y a pas assez de professionnels de la santé formés qui parlent la langue. Parce que quand en soins de santé, c'est important de parler la langue maternelle, parce que la langue qu'on est plus confortable. Puis présentement, c'est pas le cas. Donc il y a un manque de main d'œuvre, manque de professionnels de santé qui parlent la langue. Il y a une association de professionnels de la santé qui parle le chinois ou les langues asiatiques qui est formée, mais par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire pour adresser la santé mentale. Il y a eu des tentatives de suicide, là, il y a eu beaucoup de cas de dépression qui ont été répertoriés, là, malheureusement.
Et en terminant au niveau des vaccins, on sait qu'il faut rejoindre les communautés pour passer le message. Bien souvent, ils ne parlent pas la langue, ni le français ni l'anglais quand ils viennent juste d'arriver. Est-ce que le message est clair? Est-ce que les gens vont se faire vacciner? Comment ça va? Avez-vous des statistiques en terminant sur la communauté et les vaccins reçus par la communauté?
Je dirais qu'il y a au quartier chinois, il y a un centre, un CHSLD qui se nomme l'hôpital chinois. Il y a les autorités médicales là, en place là, qui s'occupent du territoire. Parce qu'il faut comprendre, au quartier chinois, il y a à peu près 500 000 résidents. Et la plupart, ce sont des personnes âgées, ce sont des loyers modiques. Qui sont des logements sociaux pour ça. Puis il y a des travailleurs sociaux, des personnes de la santé qui vont à leur rencontre pour la question de la même pendant toute la pandémie. Et il y a de l'aide qui existe. Et je dirais aussi que la question de l'environnement, l'appétit immobilier, comme on peut dire, ça peut qui peut mettre en danger justement ces logements sociaux des, pour les personnes aînées d'origine asiatique. Ça, c'est une question à court et moyen terme qui peut arriver là, prochainement. Donc ça, c'est une autre préoccupation aussi qui est dans la communauté présentement.
Alors, pour être solidaire avec vous, il faudrait aller se prendre une soupe wonton sur Saint-Laurent ou aller vous encourager les commerces, parce que là, effectivement, je sais pas si c'est... Pourtant, c'était une heure vraiment où il y avait des repas, puis j'ai vu que c'était vide, là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'était terrible, donc peut-être faire le message d'encourager la communauté, puis d'aller prendre un petit quelque chose sur la rue Saint-Laurent, dans le quartier chinois?
Oui, exactement. Mais aussi, il y a présentement, il y a aussi des spectacles. Il y a aussi qu'on appelle la place des souhaits, où ce qu'il y a un arbre de souhaits qui est inspiré de la culture cantonaise, qui est fait par une artiste d'origine chinoise, mais montréalaise, Karen Tam. C'est une place où ce que les gens peuvent amener, c'est une terrasse, donc les gens peuvent amener leur nourriture emportée qu'ils ont acheté dans un commerce au quartier chinois. Donc, c'est à la langue de Saint-Laurent et René Lévesque.
Merci beaucoup.
Et j'espère que prochainement, qu'on puisse préserver l'arbre du quartier chinois. C'est aussi le seul quartier chinois francophone en Amérique.
Merci beaucoup.
Il y en avait un à Québec qui a disparu, malheureusement, parce que dû à l'indifférence des politiciens et le développement immobilier à Québec. Donc, présentement, à Montréal, il faut le préserver. C'est aussi une place, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une place où il y a une structure d'accueil aussi, avec le fait de la famille chinoise qui a des cours de francisation, qui l'aide à l'employabilité, justement, pour les nouveaux arrivants d'origine chinoise.
C'est M. Chan.
C'est important.
Merci, Tété.
Merci beaucoup.